l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Voyager à l'étranger, ça reste encore hors de portée dans le siège du Covid-19. Cependant, il est possible de prendre un vol international sans atterrir à l'étranger. Le tourisme de ce type fera bientôt une nouvelle offre. Partir à l'étranger sans vraiment partir, c'est le principe du vol touristique sans escale. Celui-ci a été inventé au temps de la crise pandémique pour combler la nostalgie des amoureux d'escapades hors des frontières. L'avion part de l'aéroport international d'Incheon, il effectue un vol circulaire en passant au-dessus du territoire d'un pays étranger et il regagne le point de départ sans faire aucune escale. Un tel tourisme a trouvé sa clientèle qui souhaite avoir la sensation de partir en voyage et de profiter d'une détaxe identique à celle dont on pouvait bénéficier après un voyage à l'étranger. Une nouveauté plus alléchante a été annoncée par le ministère des Transports et de l'Aménagement du Territoire. Il s'agit de proposer un vol international sans escale, mais avec un aéroport d'arrivée différent de celui de départ. Il sera possible de partir depuis deux aéroports près de Séoul, à savoir ceux d'Incheon ou de Gimpo, pour arriver à des aéroports basés sur d'autres régions, telles que celles de Jeju ou de Gimé. Ainsi, les passagers auront la possibilité de voyager à l'intérieur du pays. Cela devrait faire augmenter le nombre de touristes à destination de l'île de Jeju ou de la ville portuaire de Busan. Jusqu'à présent, dans le cadre d'un vol international sans escale, tout avion naviguait vers l'espace aérien du Japon dans le sens des aiguilles d'une montre. Le ministère envisage d'autoriser les lignes qui feront un tour en passant dans l'espace aérien de la Chine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le ministère envisage de commercialiser le nouveau service à la fin de la haute saison de vacances. Alors que les couloirs aériens internationaux restent toujours bloqués, la demande pour les voyages domestiques a retrouvé son niveau d'avant la crise du Covid-19. Avec l'arrivée de l'été, on constate déjà la ruée des touristes vers l'île de Jeju. En redoutant une éventuelle saturation vers cette destination, le ministère préfère temporiser. Il effectuera une enquête sur les demandes auprès des compagnies aériennes. Compte tenu du temps nécessaire pour préparer de nouveaux produits et faire appel à des clients, la nouvelle offre sera commercialisée à partir du 21 août au plus tôt ou bien à partir du 28. Selon le ministère, le vol touristique sans escale a eu lieu le 12 décembre dernier pour la première fois à l'aéroport d'Incheon. Depuis, il a rencontré son public. Jusqu'au mois de juin dernier, des compagnies aériennes de 7 pays ont effectué au total 176 vols de ce genre pour embarquer 18 494 passagers en avion. Le taux de remplissage s'élève à 74,3% en moyenne. Et avec une nouvelle offre, ce service pourrait séduire davantage. Quel smartphone choisir pour nos parents âgés? En Corée du Sud, on peut trouver certains modèles dits yodophone, qui signifie téléphone pour la piété filiale. Ils se caractérisent par un système de caractères agrandi sur l'écran et par un prix modéré, entre autres. Ils sont faits pour satisfaire les attentes des personnes âgées. Or, il faudrait revoir cette idée répandue. Voici un épisode témoignant d'une nouvelle tendance. Un certain Wu, salarié quarantenaire, a décidé de faire un grand cadeau à sa belle-mère qui s'entêtait à utiliser son vieux téléphone portable. Il lui a offert un Galaxy Z Flip, pliable à l'horizontale. Une fois le cadeau reçu, elle ne tarissait pas d'éloges sur son gendre. Elle lui a dit « Autour de moi, tout le monde est émerveillé et envieux de mon smartphone. Ça me rend si fier ». Selon Wu, il était plus efficace en termes de satisfaction d'offrir un smartphone dernier cri à la mère de son épouse que de faire changer son frigo, sa télé ou bien sa machine à laver. Par ailleurs, le Galaxy Z Flip séduit les femmes d'âge moyen avec sa forme compacte qui rappelle celui de l'étui à fond de teint ou de l'étui à poudre qui se glisse facilement dans une poche. Et ce n'est pas un cas isolé. Les smartphones de dernier cri, comme les modèles avec écran pliable, ne sont plus l'apanage des jeunes. Selon les données établies par les opérateurs de téléphonie mobile, 35% des usagers du Galaxy Z Flip font partie des cinquantenaires ou des tranches d'âge supérieures. Pourtant, ce modèle coûte près de 1,5 million de won, soit 1100 euros. Par ailleurs, 25% des utilisateurs du Galaxy Z Fold, qui se plie à la verticale comme un livre, sont âgés de 50 ans ou plus, malgré son prix de 1,9 million de won, soit 1400 euros. Évidemment, il n'y a pas que l'envie de parader ou le besoin esthétique qui pousse à dépenser une telle fortune. Le côté fonctionnel compte aussi. D'après les statistiques 2020 sur l'utilisation d'Internet, 70% des quinquagénaires et des sexagénaires regardent des vidéos en ligne au moins une fois par jour. Les 50-59 ans y passent 4,9 heures par semaine et les 60-69 ans 3,7 heures par semaine. Ils sont de plus en plus nombreux à effectuer des transactions bancaires ou leurs courses en ligne. Et pour ces usages, il faut bien un smartphone plus performant. Ainsi, les smartphones dernière tendance ont la cote chez la génération dite OPAL, ou Old People with Active Life, c'est-à-dire les seniors actifs. Par ailleurs, OPAL a un homonyme en coréen, 58. La génération OPAL peut désigner ainsi celle du baby boom, ceux qui sont nés en 1958 en Corée du Sud et qui ont un grand pouvoir d'achat. Lorsque l'on est diplômé de l'une des universités les plus prestigieuses du pays, on a tendance à viser plus haut pour mener une belle carrière professionnelle et obtenir de la reconnaissance sociale. Eh bien, voici une femme qui casse ce schéma. C'est l'histoire de Bae Yoon-seul, âgée de 28 ans. Elle a fait ses études de service social à l'université Yonsei. Elle a fait une reconversion professionnelle singulière pour devenir tapissière, dont le métier consiste à coller du papier peint sur les murs ou le plafond de logement. Elle a récemment publié un livre sur son parcours, pas comme les autres, intitulé « L'histoire d'une tapissière ». Une fois le diplôme dans sa poche, B est devenue assistante de service social et elle a travaillé dans un centre réservé aux personnes âgées. Mais ce n'était pas par gaieté de cœur. Chaque fois qu'elle voulait prendre une nouvelle initiative avec passion, notre héroïne était confrontée à la rigidité du milieu où presque tout a été formaté. Elle était contrainte de suivre la même méthode déjà établie et de ne pas se faire remarquer. Elle est devenue sceptique sur sa vocation. Dans son métier, toute personne semblait facilement remplaçable. B a abandonné son travail au bout de 2 ans. Elle voulait trouver sa propre voie, de préférence un travail technique qui la rendrait irremplaçable et qui puisse lui procurer un sentiment de stabilité. Elle a opté pour le tapissage. Elle a aussi fait une formation spécialisée pendant 1 mois. Elle a commencé à travailler à partir d'automne 2019 sur les chantiers de construction de nouveaux appartements. B aime ce travail manuel en ce qu'elle peut en obtenir des résultats tangibles et une évaluation claire et objective, alors que le travail au bureau fait l'objet d'une appréciation abstraite et ambiguë. En tant que tapissière, elle n'a qu'à coller de nombreux papiers peints méticuleusement sans défaut. Au début, elle voulait tenir au moins 1 mois. Alors qu'elle est frileuse, par nature, elle a bravé le froid sur le chantier où il n'y a même pas de chauffage pour travailler sans porter de doudoune en plein hiver et en trempant ses mains nues dans de l'eau froide. Elle a su aussi se faire une place dans ce monde traditionnellement masculin. Elle a perfectionné sa technique au point de voir sa rémunération journalière augmenter de près de 80% entre-temps. Notre tapissière courageuse a partagé son histoire sur les réseaux sociaux. Elle a reçu des encouragements chaleureux et en même temps, elle a subi aussi du mépris et de la discrimination en raison de son vêtement de travail souillé. Mais elle a persévéré et elle pouvait tenir aussi grâce au soutien infaillible de ses parents qui ont dû être confrontés eux aussi à des préjugés comme « Vous n'êtes pas inquiet? Votre fille pourrait tomber amoureuse d'un ouvrier sur le chantier de construction et vouloir se marier avec lui. » B ne se soucie guère du qu'en dira-t-on, qui ne serait que passager. C'est sa propre satisfaction du travail quotidien qui compte le plus.
Vous avez aimé? Vous avez détesté? Vous avez adoré? Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul jour le jour en compagnie de Franck Atlani. Une belle récompense pour une initiative innovante entreprise il y a 2 ans par un producteur de KBS Radio. En 2019, Kim Hong-bom dirigeait Kiss the Radio avec Park Won, une émission de musique. Et pendant un an, il a organisé une compétition cérébrale contre la machine nommée « Guerre de la sélection musicale, l'humain contre l'intelligence artificielle ». Kim est parti d'une simple idée. Son travail était en partie similaire à celui des plateformes musicales qui proposent des morceaux à l'aide d'un algorithme. Kim a affronté Vibe, la plateforme du portail Never, au cours des 6 premiers mois et il a fait face à Flo, celle de Dream Us Company, durant les 6 mois suivants. En tant qu'être humain, notre producteur pouvait se différencier de l'IA en s'inspirant de la sensibilité qui se dégage des mots envoyés par des auditeurs. Quant à l'intelligence artificielle, elle misait sur les données telles que l'année, le rythme ou le genre. Parfois, l'IA a su dénicher des chansons qui ont échappé à l'attention de Kim. L'enjeu était de satisfaire le goût de l'auditeur ou de l'auditrice qui envoie son histoire. Or, l'équipe de Kim a été confrontée au problème de la protection des données personnelles. Elle devait se contenter d'exploiter quelques catégories de données telles que la tranche d'âge, le sexe et les morceaux récemment écouté. D'où le changement de cap vers le vote des auditeurs sur la préférence entre la musique proposée par l'humain et celle par l'IA, ainsi que le quiz proposant de deviner qui a sélectionné quoi. Cette initiative a laissé entrevoir la possibilité de vivre en symbiose avec l'intelligence artificielle et ses efforts ont payé. L'émission de Kim Mungbaum a été récompensée à la 73e édition du prix Italia dans la catégorie Web Factual. Le mois dernier, elle a eu la mention spéciale pour terminer ainsi au second rang de facto. Elle a été présentée comme un cas remarquable en termes d'innovation en ce qu'elle a démontré comment l'humain et l'IA peuvent coopérer ensemble sans être gagnants ni perdants. Le prix Italia est l'un des concours internationaux les plus prestigieux dans le domaine et c'est la première fois qu'une émission radiophonique sud-coréenne se voit attribuer un prix de ce concours. Un album dédié au K-drama a été édité par Deutsche Grammophon, la maison mère du très prestigieux label de musique classique qui a une longue histoire de 120 ans. Il est intitulé Shade of Love Korean Drama Soundtracks. Cet album contient 15 titres emblématiques de 11 séries télévisées connues comme Descendant of the Sun, Goblin, Mr. Sunshine, Crash Landing on You, Six Flying Dragons et The Legend of the Blue Sea. Quelques musiciens célèbres ont participé à sa production. Le oboïste Albrecht Meyer, le violiste Richard Yongjae O'Neill, les flûtistes James Galloway et Philip Junt et le pianiste Sébastien Knauer. Ce projet a vu le jour à l'initiative du flûtiste suisse Philip Junt qui a séjourné au pays du matin clair et qui est devenu un fan féru de drama sud-coréen. Il a écouté plus de 2000 morceaux de bande originale de feuilleton et il en a sélectionné 15 titres pour cet album. C'est le compositeur allemand Marco Ernstenstein qui a réarrangé ses morceaux choisis afin d'y mettre un souffle de musique classique. Philip Junt a expliqué sa démarche comme suit. Les musiciens sud-coréens sont nombreux à interpréter la musique occidentale. Je voulais inverser les choses. Il s'agissait d'inviter des musiciens occidentaux à jouer la musique sud-coréenne afin de rendre hommage à celle-ci. Dans un entretien avec les médias, deux musiciens participants ont livré leur appréciation. Pour le oboïste Albrecht Meyer, on y trouve un air lyrique et adorable à la fois et en même temps des passages électrisants très puissants. Je suis enchanté par cet album, a-t-il dit. Quant au pianiste Sébastien Knauer, il souligne « En écoutant, on peut imaginer l'histoire au-delà de la musique. Même si on ne connaît pas les séries en question, on pourra apprécier la belle musique. » Eh bien, on peut dire que le premier album de K-drama édité chez Deutsche Grammophon témoigne bien de l'attrait de la culture sud-coréenne pour les jeunes du monde entier. BTS a sorti le 9 juillet dernier son nouveau single intitulé Permission to Dance. Le groupe star planétaire de la K-pop attire une grande attention cette fois grâce au clip vidéo de son 3e single en anglais. Le septuor présente une chorégraphie inspirée de la langue des signes dans cette chanson dédiée à l'époque du post-Covid-19. Pour réaliser cette danse, BTS a discuté avec des spécialistes de cette langue. Les Bangtan Boys ont choisi quelques mots-clés qui puissent faire passer leur message plein d'espoir et ils les ont ajoutés à la chorégraphie de Permission to Dance. Ils disent avoir été très attentifs aux gestes et à l'expression faciale pour s'exprimer en langue des signes. Par exemple, dans le clip vidéo, vous verrez les Bangtan Boys danser les deux pouces vers le haut avec des mouvements verticaux pour dire « amusant ». Ou sur une main plate, la paume ouverte vers le haut, ils mettent deux doigts de l'autre main en simulant l'action de marcher avec l'index et le majeur, ce pour signifier danser. Ou encore, ils forment le signe V avec chacune des deux mains pour souhaiter la paix. Les fans fervents de BTS s'en réjouissent. Selon eux, l'initiative de leur idole a une grande signification en ce qu'elle incite le grand public à s'intéresser davantage à la langue des signes. Selon un fan anglais de BTS, le clip vidéo de Permission to Dance permet aux membres sourds et malentendants de l'ARMY, la communauté de fans du Scepter, de profiter de la musique de leur idole autant que les autres. Et il contribue également à faire en sorte que la langue des signes se généralise davantage. Par ailleurs, le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé a remercier lui aussi le Bangtan Boys d'aider 1,5 million d'habitants de la planète qui ont perdu l'ouïe afin qu'ils puissent jouir de la musique. C'est pour cette raison que la démarche de BTS est appréciée par les sourds malentendants qui ne sont pas fans du groupe. Et les fans de BTS du monde entier se sont lancés un nouveau défi, Challenge de Dance en langue des signes. Il s'agit de se filmer en train de reproduire la chorégraphie de Permission to Dance et de poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Et si ça vous intéresse, c'est à vous de jouer. À vos marques. Aujourd'hui, c'est J-3. Les Jeux Olympiques d'été de Tokyo débuteront vendredi et Thierry Laplanche nous rejoint pour nous faire découvrir cette fête sportive planétaire avant l'heure. Bonjour Thierry.
Bonjour Franck.
Le numéro d'hier a été consacré au baseball. Aujourd'hui, faisons un topo sur le football. Qu'en est-il alors ?
La Corée du Sud a décroché la médaille de bronze aux JO de Londres il y a 9 ans. Elle est donc jugée assez compétitive. Le football donne certes la possibilité d'utiliser un joker ou wild card, à savoir une invitation privilégiée pour un joueur, mais il fixe un âge limite de participation. Seuls les athlètes âgés de moins de 23 ans peuvent concourir aux Jeux Olympiques. Or, cette limite a été rehaussée à 24 ans du fait que l'édition de Tokyo a été reportée d'un an à cause du Covid-19. Bref, les footballeurs sont plus jeunes et ils présentent un écart moins important en termes de performance au JO que dans d'autres compétitions, ce qui rend plus imprévisible l'issue des matchs.
C'est bien vrai ça.
Par ailleurs, l'équipe sud-coréenne peut viser plus haut que d'habitude. En effet, l'Europe ne dispose que de 4 places selon le principe des qualifications continentales, alors qu'elle compte de nombreuses équipes puissantes. La Roumanie, la France, l'Espagne et l'Allemagne sont qualifiées pour les JO de Tokyo. Ainsi, la Corée du Sud pourra miser sur une médaille d'or dans le football masculin. Pour rappel, sous la houlette du sélectionneur Kim Hak-bom, les guerriers de Taegeuk ont validé leur ticket pour Tokyo en remportant le championnat moins de 23 ans de la Confédération Asiatique de Football qui s'est tenue en janvier 2020 en Thaïlande. Par conséquent, la Corée du Sud participera à son 9e tournoi olympique consécutif de football masculin depuis les JO de Séoul en 1988. Elle réalise ainsi un véritable exploit parce que c'est une première mondiale.
Mais quels joueurs ont été sélectionnés ?
Tout d'abord, 2 wildcards ont été utilisés pour sélectionner Hwang Eui-jo et Gwon Chang-hoon. Par contre, Kim Hak-bom a préféré finalement ne pas recourir à ce joker pour faire venir Son Heung-min, très motivé pourtant, qui avait obtenu l'autorisation de son club des Tottenham Hotspur. Il s'agissait de protéger l'attaquant sud-coréen qui mène sa carrière dans la première ligue en Angleterre. Sur la liste se trouve le gardien de but du Jeonbuk Hyundai Motor, Son Bong-geun, deux défenseurs du FC Daegu, Jang Tae-uk et Kim Jae-woo, le milieu de terrain du club espagnol de Valence CF, Lee Gang-in, et 2 attaquants qui ont fait récemment leur début dans l'équipe nationale des adultes, Song Min-gyu et Lee Dong-jun. Kim Hak-bom avait publié le 30 juin la liste des 18 hommes. Or, le lendemain, la FIFA a relevé le nombre à 22 joueurs en raison du facteur pandémique. Ainsi, Kim a ajouté 4 réservistes, y compris le défenseur Lee Sang-min.
Et bonne pioche pour l'équipe sud-coréenne. Elle fait partie d'un groupe dit facile. Ainsi, elle peut espérer de bons résultats.
Tout à fait. Au JO de Tokyo, les 16 équipes qualifiées sont réparties en 4 groupes et les 2 qui finiront en tête de leur groupe disputeront une phase à élimination directe. La Corée du Sud a été affectée au groupe B avec la Nouvelle-Zélande, le Honduras et la Roumanie. Elle a eu la poule la plus facile. Selon son sélectionneur, elle doit se préparer à une embuscade inattendue, à savoir son premier match face à la Nouvelle-Zélande. Dans l'histoire olympique, la Corée du Sud a enregistré 3 victoires et 0 défaites. défaites face à Nouvelle-Zélande, ainsi que 2 victoires, 1 nul et 1 défaite contre le Honduras. Elle aura son premier match olympique face à la Roumanie. Ainsi, elle semble avoir toutes ses chances.
Mais le plus dur reste à venir.
Et oui, dans les 8e de finale, la Corée du Sud pourrait retrouver le Japon. Et à partir des quarts de finale, elle affrontera les équipes puissantes des groupes C et D. Higuaín, connaisseur de la Ligue espagnole, a notamment remarqué la très belle composition de l'équipe d'Espagne, l'un des prétendants redoutés de la médaille d'or. Sans oublier le Brésil qui tâchera de défendre son titre olympique et l'Argentine et la France susceptibles de barrer la route au pays du matin clair dans son ascension vers la plus haute marche du podium.
Et le groupe de la mort, c'est bien le groupe C, n'est-ce pas ?
Exactement, la concurrence sera la plus rude dans le groupe C, composé de l'Argentine, de l'Espagne, de l'Égypte et de l'Australie. Par ailleurs, la tâche ne sera pas facile pour le Japon, faisant partie du groupe A, avec la France et le Mexique. Si la Corée du Sud termine en tête de son groupe, elle rencontrera au 8e la nation arrivant au second rang du groupe A. Si elle occupe la 2e place, en revanche, elle affrontera le numéro 1 de celui-ci. Donc, il faudra suivre attentivement la situation du groupe A. Quant au groupe D, il est composé du Brésil, de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire et de l'Arabie Saoudite. Si les Sud-Coréens accèdent en demi-finale, ils pourront tomber sur le Brésil, armé de joueurs remarquables tels que Richarlison, l'attaquant clé d'Everton. Ce match pourra constituer le plus grand obstacle pour décrocher une médaille.
Eh bien moi, je ne manquerai pas de suivre les matchs pour chasser la chaleur qui ne quitte pas ces nuits d'été.
Bonne idée Franck, et à demain pour notre feuilleton olympique avant l'heure.
Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Namyunji à la rédaction, Franck Atlani au micro et Oh Hayoung à la réalisation. Je vous souhaite une excellente soirée.